C'est les vacances. Alors, on a beaucoup de moins de réunions, pour moi en tout cas personnellement. Donc, j'apprécie énormément d'avoir toutes mes soirées. Alors que habituellement, j'ai 4 soirées où je suis toujours en déplacement pour des réunions. Donc, ça, j'apprécie. Et donc, je profite cette occasion pour lire, pour ranger un peu la maison, pour faire quelques travaux. D'ailleurs, cet après-midi, je vais aussi faire quelques travaux, la peinture. Voilà. Et puis, pendant cette soirée de repos, j'avais réfléchi. Est-ce que le Seigneur, est-ce que je me rends compte que 24 heures sur 24, que le Seigneur est avec moi? Est-ce que je me rends compte? Est-ce qu'il est toujours? Est-ce que je le ressens 24 heures sur 24? Ce Seigneur qui est mort à la croix pour mon péché. Et c'est vrai que si nous sommes morts au péché par la foi en Jésus, et que ce Seigneur, nous l'avons accepté au centre de ma vie, on devrait voir ce changement. On devrait voir ces progressions spirituelles qui continuent à grandir davantage. Je ne sais pas si vous vous rappelez la première fois où vous avez cru en Dieu. En tout cas, je me suis rappelé que quand j'ai accepté le Seigneur, je me suis dit, mais pourquoi je suis comme ça maintenant? Alors qu'avant, je n'étais pas comme ça. Non, ça vous... Si, quand même, ça vous rappelle. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais pourquoi je pense à Dieu? La première chose que je pensais, c'était Dieu. Ouais. Peut-être les autres ne voient pas forcément la transformation qui a eu lieu en moi, mais moi, d'abord, je sais, avant que les autres voient. Je vois cette transformation. Et on voit, de temps en temps, en tout cas, porter du fruit. Vous savez, le fruit de l'esprit, hein, l'amour, hein, on voit l'amour, la joie, la paix aussi. La patience, c'est le sujet d'aujourd'hui, la patience. La bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité et la maîtrise de soi. Est-ce que nous portons tous ces fruits de l'esprit dans la vie quotidienne? Et ce matin, j'aimerais particulièrement m'arrêter sur cet fruit, la patience. La patience qui a un rôle très important justement pour l'opération du Saint-Esprit en nous. J'aimerais vous donner un petit exemple de David, le roi David. Vous savez, lorsqu'il a été oint par le grand prophète Samuel pour qu'il devienne roi, après cette onction, ce petit David a connu une grande bénédiction, c'est-à-dire il a pu vaincre le grand Goliath, vous connaissez tous cette histoire. Et ensuite, il s'est marié avec la fille du roi. Et donc, avec ce bon départ, on s'est dit que voilà, il va devenir roi bientôt. Et puis, ce que Samuel avait fait sur David, ben, ça va se concrétiser bientôt. Mais finalement, David a connu des épreuves, des tribulations. À cause de la jalousie du roi Saül, il a été condamné à l'exil et à vivre dans l'errance pour fuir ce roi qui cherchait à le faire mourir. En tout cas, il lui a fallu la patience, une grande patience jusqu'à ce que ces persécutions se terminent. Parfois, nous sommes dans la même situation que David. Parfois, on a l'impression qu'on a reçu cette promesse de Dieu, et puis même vous avez eu une confirmation de la part de Dieu, comme David, qui a été confirmé par l'onction de Samuel, et puis il y a des tribulations, il y a des épreuves. Vous avez l'impression que le chemin que vous prenez n'est pas le bon chemin. Et puis même dans la vie, à cause de la dureté de la vie, on peut se douter, et puis on reste impatient. Pourtant, Dieu est présent et il nous demande d'être patient. D'ailleurs, la culture d'aujourd'hui n'est pas favorable pour avoir cette patience. Rien que chacun d'entre nous, nous avons chacun notre smartphone. Hein? Et à cause de cela, vous savez, nous sommes tous joignables. Alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Quand je prenais un rendez-vous, voilà, il fallait vraiment fixer un rendez-vous. Et puis, non. Et puis, on veut tout de suite. Voilà. Si je regarde aussi les films d'aujourd'hui, on voit la différence par rapport au film qui a été fabriqué il y a très longtemps. Hein? Le film que j'adore, enfin pas j'adore, mais j'aime bien, c'est Le vent emporte le vent. Non, le temps. Autant emporte le vent. Voilà, autant emporte le vent. Et ce film, je l'ai vu quand j'étais en Corée. Donc quand j'avais quoi, 12 ans, 11, 12 ans. Et ça m'avait tellement marqué quand je suis revenu en France et que quand ça passait à la télé, je regardais tout le temps. Et je ne sais pas combien de fois je l'ai revu, ce film qui dure 3 heures, je pense. Au moins. Plus, oui, au moins 3 heures. et c'est un film qui est assez lent, mais agréable à regarder, en tout cas pour les anciens. Pour les anciens. Non, mais je vous assure, quand on fait voir aux jeunes ce genre de film, ils ne supportent pas, parce que ça avance pas assez rapidement. Hein? On est vrai que tout se passe en un seul coup, toute l'histoire. Hein? Parfois, voilà, en 10 minutes, on aimerait tout savoir, en fait. La culture d'aujourd'hui, c'est comme ça. D'ailleurs, l'idéologie du court terme et de l'accélération, aussi, a changé la nature même du travail. Hein? On travaille peut-être moins et plus efficacement, et puis, au lieu de donner un travail en CDI, on donne des projets, des projets pour qu'ils remplacent un peu les travaux, etc. Voilà la culture d'aujourd'hui qui n'est pas favorable pour la patience. Hein? On veut tout de suite. Mais malgré tout, Dieu aimerait qu'on soit patient. Et il nous demande de lui faire confiance jusqu'à ce qu'il ouvre des portes. Parfois, oui, les portes se ferment et nous restons dans l'impatience. D'ailleurs, si nous regardons les personnages bibliques, nous voyons des personnes qui ont été toujours patients. Et puis, dans la Bible, on voit aussi des gens qui ont été impatients. Tout d'abord, si on regarde un petit peu les gens patients, on peut voir Noé. Noé, après avoir reçu le projet de construction, il lui a fallu 120 ans pour construire toute l'arche. Job, on n'en parle pas, dans l'épreuve, il est resté patient, fidèle à Dieu. Abraham, il a été appelé par le Seigneur à 75 ans. Dieu lui a promis de lui accorder une multitude de descendants. Et puis qu'est-ce qu'il voit ? Il ne voit rien. Et il a fallu attendre jusqu'à ses 100 ans pour voir le fils Isaac. Joseph, c'est pareil. Joseph, l'homme fidèle, l'homme qu'on compare souvent avec Jésus dans le Nouveau Testament, lui qui a reçu tellement de rêves, tellement de visions par le Seigneur, tellement de promesses, lui, il a connu 14 ans de vie d'esclave et en tant que prisonnier aussi. Et il a fallu rester malgré tout intègre et patient. Donc on voit tous ces personnages qui ont été toujours patients. D'ailleurs, on peut encore regarder, on peut continuer la liste. Hein. Moïse, 40 ans dans le désert, voilà, il est quand même resté fidèle à Dieu, il est resté patient. David, après l'onction, je vous avais tout à l'heure dit, il lui a fallu 7 ans d'attente avant de devenir roi. Donc pendant 7 ans, il a connu cette vie d'errance. Daniel, il a jeûné 21 jours avant que le Seigneur lui réponde, lui donne vraiment toute la réponse possible. Voilà, on peut continuer encore ainsi de suite. À mon avis, dans votre tête aussi, hein, vous avez plein de personnages qui ont été patients jusqu'au bout. Et puis, dans la Bible, on voit aussi des gens qui n'ont pas été patients. Tout d'abord, on pourrait citer le peuple d'Israël. Hein, ça, c'est un peuple au cou raide, hein, on appelle ça, hein, ils sont orgueilleux. Ils étaient orgueilleux quand ils étaient donc dans l'Exode, dans le désert, ils se plaignent toujours, ils se plaignent toujours. Or, Dieu savait très bien que la vie était difficile dans le désert et que Dieu savait très bien voilà, qu'ils allaient avoir soif, qu'ils avaient besoin de nourriture, qu'ils allaient avoir des conditions difficiles, mais ils savaient qu'il allait les pourvoir. Mais le peuple n'a pas attendu que Dieu les pourvoie, mais ils sont toujours pleins. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise, en tout cas ceux qui avaient plus de 20 ans, sauf Josué et Caleb. Voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui ont été impatientes parmi les personnages bibliques, le roi Saül. Le roi Saül, au départ, on l'a choisi parce que le peuple a voulu un leader. Alors Dieu accepte la proposition du peuple et il nomme Saül, au départ, qui était humble. Qui était humble. Il disait, voilà, quand Samuel l'a nommé, il a dit, « Oh non, mais pourquoi moi ? Je suis le fils, le plus petit de tribu benjamite, etc. etc. » Hein? Donc on voyait l'humilité dans sa personne, et puis on voit aussi une crainte énorme de la part de Saül pour le grand Dieu. Mais finalement, Samuel lui propose ceci, voilà, tu vas faire plein tu vas faire certaines choses, et puis tu vas attendre encore 7 jours, je viendrai pour faire des sacrifices. Et là, il n'a pas pu attendre 7 jours parce qu'il voyait son peuple qui était là pour faire la guerre contre les Philistins. Donc, vous savez, en général, à l'époque, souvent, on faisait des sacrifices avant de faire la guerre. Et le peuple, donc, attendait impatiemment et les gens disparaissaient ou se mettaient en retrait. Il partait. Donc, quand il a vu le peuple, son peuple qui, normalement, devait battre, qui devait confronter les Philistins, disparaître, il a eu peur. Il a eu peur que, voilà, qu'ils soient très peu nombreux. Alors, pour faire la guerre, il fait, lui, le sacrifice, alors que, d'après la Bible, c'était interdit. Seule la lignée d'Aaron pouvait faire ces sacrifices. Et c'est ainsi que Saül, qui au départ était promis pour que sa lignée soit bénie de génération en génération, à cause de cet événement, il a été rejeté par le Seigneur. Il n'a pas été patient. Il n'a pas pu attendre les 7 jours. Et d'ailleurs, il avait attendu le 7e jour, jusqu'au 7e jour, mais pas jusqu'à la fin. Il aurait pu attendre encore quelques heures, mais voilà, il lui a manqué quelques heures pour rater cette bénédiction que Dieu avait prévue pour lui, pour sa famille, pour sa génération. Voilà, je reviens à la parole d'aujourd'hui. L'introduction était longue, mais voilà, c'est dans Jacques 1. Versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Voilà jusqu'ici notre lecture. Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Comment les diverses épreuves, des maladies, peuvent être vues comme un sujet de joie complète? Est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il faut être content? Est-ce qu'il faut fêter d'être dans l'épreuve et d'être dans la maladie ou pas? Ben, si c'est le cas, ben, vous êtes bon pour aller dans un hôpital psychiatrique. Voilà, vous êtes dans la maladie et puis vous êtes joyeux, etc. Non, c'est pas ça qu'il veut dire. C'est pas ça. Dans cette parole, cela veut dire que Un sujet de joie, c'est un sujet de joie, car Dieu est avec nous. On peut prendre les épreuves comme un sujet de joie parce que le Seigneur est avec nous. C'est ça en fait. Quand l'Esprit est là, voilà, quand nous avons une relation intime, bah, les maladies, les épreuves ne peuvent pas nous atteindre dans notre vie. Je m'explique. Ceux qui sont déjà venus dans notre appartement, vous savez que j'habite au 6e étage et que l'ascenseur est tout petit. C'est fait pour 4 personnes, donc on est coincé comme ça. Et quand j'appuie donc l'ascenseur, il faut attendre. Mais vraiment, il faut attendre. Parfois, ça vient tout de suite quand c'est là, mais même s'il est là devant, ça s'ouvre très très lentement. Mais j'ai jamais eu un ascenseur qui est aussi lent. Et puis même pour monter, c'est pareil. Donc parfois, j'attends 5 minutes. Même ce matin, là, j'ai dû attendre 5 minutes parce que voilà, quelqu'un faisait aller-retour quelque part. Et là, quand vous êtes en retard, 5 minutes, c'est précieux. Hein, et j'aime pas être en retard. Donc 5 minutes, c'est vraiment précieux. Et pour descendre, bien sûr, quand je suis au 6e étage, je peux descendre, je prends l'escalier, hein, je cours et puis voilà. Mais quand je monte, quand je veux monter, là, ça. 6e étage, j'ai pas le courage, surtout quand j'ai fait les courses. Donc j'attends. Et parfois, la dernière fois, j'étais en train d'attendre et puis comme c'est un ascenseur pour 4 personnes et que devant moi il y avait 4 personnes, j'ai dû attendre encore 10 minutes. Hein? Voilà, le temps que eux ils font, et puis comme ça j'ai pu prendre mes courses. Ce temps d'attente, parfois c'est énervant. Mais je ne ressens pas cet énervement quand je suis avec Laetitia, ma femme que j'aime, avec qui je discute, avec qui j'ai une relation. Quand je discute avec elle, je ne vois pas du tout le temps passer. C'est exactement la même chose avec le Seigneur. Parfois, on peut être dans la difficulté, mais lorsque j'ai une relation intime avec le Seigneur, ce temps d'attente peut passer très rapidement. Dans la relation intime avec le Seigneur, Dieu nous révèle certaines choses, nous réconforte, nous donne les paroles nécessaires pour endurer les difficultés. Et c'est ça qui fait que on peut regarder les épreuves comme un sujet de joie. Parce que j'ai une relation intime, une personnelle avec Dieu, qui nous fortifie, qui nous vivifie davantage. Je relis encore le verset 3 et 4. « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » La patience, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. À l'époque de l'Église primitive, les gens étaient dans la persécution. À cause de leur foi, ils ont été persécutés. Vous avez entendu la semaine dernière le témoignage de notre sœur qui était persécutée à cause de sa foi par sa famille, qui a été rejetée par sa famille à cause de sa foi. Ben, même de nos jours, c'est une réalité, mais à l'époque, c'était encore pire. C'était encore pire parce que, voilà, l'Empire était contre la foi, contre les chrétiens. Et les chrétiens ont souffert à cause de leur foi. Et devant cette difficulté, ce qu'ils avaient comme espérance, c'était que la promesse de Dieu, qu'il allait revenir. Ils croyaient vraiment que le Seigneur allait revenir. Et ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont attendu une année, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et le Seigneur n'avait pas toujours pas revenu. Les persécuteurs se moquaient d'eux. D'ailleurs, Pierre parle bien de cela. Sachant avant tout, dans 2 Pierre 3, il est dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra les moqueurs avec des railleries marchant selon leur propre convoitise et disant, Où est la promesse de son avènement? Ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans, et il n'est toujours pas revenu. Et peut-être que Pierre avait déjà, peut-être il avait prévu cela. Il disait, un jour est comme 1000 ans, c'est dans le même chapitre, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Il voulait vraiment qu'on soit plus patient avant ce retour de Jésus. Oui, je vous avais tout à l'heure dit de demander si vous aviez pensé durant la semaine dernière si Jésus allait revenir. Est-ce que vous avez cette attente? En tout cas, Dieu nous demande de veiller, veiller. Dans 1 Thessaloniciens 5, il est dit, « Mais vous, frères, 4-6, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Oui, Dieu revient comme un voleur, mais nous, qui sommes enfants de Dieu, nous voyons les signes. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, et ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons pas. Mon père dort souvent en culte, en écoutant la prédication. Je le pince à chaque fois quand il est à côté de moi pour qu'il se réveille. C'est vrai qu'on doit être réveillé pour être dans l'attente du Seigneur. Est-ce que vous avez cette espérance? Est-ce que c'est dans cette espérance que vous pouvez être dans la... Donc cette espérance nous aide en tout cas à être dans la patience, dans la patience. Croire avec cette certitude de ce que Dieu va faire est très important. Et je vous avais dit que la relation avec le Seigneur Jésus est très importante. Et j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que Jésus vit en vous? Vous pouvez répondre. Est-ce que Jésus vit en vous? Oui, c'est super, votre réponse. Parce que parfois, je pose cette question et les gens me répondent, oui, je crois, je pense qu'il vit en moi. C'est comme si, je demande à quelqu'un, est-ce que tu as des enfants? Puis il répond, oui, je crois que j'ai des enfants. C'est une réponse qui est acceptable. Mais ce n'est pas une certitude. Et vous savez, il faut avoir cette certitude que Jésus vit en moi constamment. Et lorsqu'on me pose cette question, est-ce que Jésus vit en toi? Et je répondrai, oui, il vit en moi. Parce que je le ressens, parce que je vis constamment. Quand je me réveille, je suis avec lui. Quand je me couche, je suis avec lui. Jour et nuit, j'essaie d'être en contact, en relation avec lui. C'est ça qui est la solution pour que cette joie immense arrive dans ma vie, malgré les épreuves. Parce que durant cet été, on a eu beaucoup des nouvelles tristes, des personnes qui sont tombées malades, qui sont décédées, qui ont reçu une maladie assez grave, etc., etc. Mais malgré tout cela, si le Seigneur est avec nous, nous pouvons tenir bon jusqu'à la fin. J'aimerais conclure. Dans cette patience, j'ai expérimenté une chose. Quand j'étais vers la fin de mes études de théologie, j'étais en quatrième année, j'avais rencontré Laetitia et 10 mois plus tard, on était mariés. Et j'ai commencé une cinquième année à la fac parce qu'il me manquait une matière. Et donc je faisais juste une matière, l'hébreu, que je manquais, une matière pendant le semestre. Et que pendant ce temps, Laetitia terminait ses études. Donc j'avais une année. À ce moment-là, avec le mariage, j'ai dû arrêter mon travail en tant que pasteur stagiaire dans une église coréenne où je recevais régulièrement mon salaire chaque mois. Et par des concours de circonstances, en tout cas, normalement, il était prévu que j'aille en Afrique. Avant d'aller en Afrique, il était prévu que j'aille en Corée, me former pendant 2 ans, suivre une formation pour les missionnaires et repartir dans un pays francophone en Afrique. Et par des concours de circonstances, ça a chamboulé tout et puis ça s'est arrêté. Et donc, j'avais sans ressources. Et puis, j'avais planifié tout et tout à coup, hop, ça a clashé. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Et puis, vous voyez les autres, vos copains, qui ont déjà un plan défini. Tout le monde était prévu d'aller quelque part, sauf moi. Et puis, vous êtes mariés. Et voilà, donc vous vous dites, bon, je vais faire confiance. Comment je vais faire au niveau financier? Et voilà, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans la patience, qu'est-ce qu'on fait? On prie. On essaie d'avoir une relation intime. On essaie de découvrir, mais c'est quoi ta volonté? Mais au fond de moi-même, j'avais une certitude. Voilà, le Seigneur m'a appelé, donc il va me servir. Il va m'utiliser. J'avais une certitude. Mais, vous savez, le temps passe, ça n'arrive rien. Le temps passe, ça n'arrive rien. Parfois, il y a des stages que je fais, et puis, les gens sont super contents, ils veulent m'avoir comme pasteur, et puis, ça n'arrive pas. Parce que ils peuvent pas payer un plein temps. Et puis, j'attends encore, et encore une église me contacte, on est en contact avec eux, tout est fait, tout est presque fait, et puis, un mois avant, ça chamboule tout, ça arrête. Et dans un mois, vous deviez laisser votre appartement, alors que vous venez d'avoir un enfant. Vous êtes marié, vous venez d'avoir un enfant, et vous n'avez rien. Vous n'avez nulle part où aller. Et puis, en plus, vous n'êtes pas connu par les églises françaises. Je suis connu par les églises coréennes. Toutes les églises coréennes me connaissaient très bien, mais je ne voulais pas servir les Coréens. D'ailleurs, une église coréenne m'avait invité à venir comme pasteur. Mais je ne voulais pas, parce que j'avais la conviction que le Seigneur m'appelait pour des francophones. Voilà. Un mois avant. Et un mois avant, le Seigneur fait en sorte que les gens m'appellent. Mais vous savez, les 11 premiers mois étaient difficiles. Hein? 11 premiers mois étaient difficiles parce que vous êtes dans l'attente, dans la patience. Mais vous savez que Dieu est avec vous. Mais malgré la conviction, on peut être déboussolé. On peut être déboussolé, déstabilisé, mais pas, bien sûr, anéanti complètement, mais déstabilisé quand même. Mais malgré cela, il faut garder la confiance jusqu'au bout. Parce que Dieu nous aide, en tout cas, à garder cette force, à patienter dans la joie. Parce que nous savons que, oui, malgré les épreuves, nous savons que Dieu a un plan pour nous. Et c'est pour ça que nous n'avons rien à s'inquiéter. Dieu est présent en nous et que nous savons aussi que Dieu, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Donc on peut être dans l'assurance. Et surtout aussi, sa grâce nous suffit. Oui, Dieu nous aime. Dieu aimerait qu'on soit plus à l'écoute, dans la patience, en relation avec le Seigneur, pour surmonter les difficultés, pour surmonter les différentes choses qui sont dures, pour, en tout cas, à surmonter. Mais lorsque nous regardons un petit peu les personnages bibliques, ils ont été fidèles jusqu'au bout. Et j'aimerais vraiment nous inviter à tous à garder cette fidélité jusqu'au bout pour que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, quand je regarde le roi Saül, qui était destiné à recevoir ta bénédiction, Il l'a rejeté. Il l'a rejeté parce que il ne connaissait pas la priorité. Et que il a désobéi à ta parole. Alors que tu dis que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, que nous puissions être plus obéissants dans la patience. C'est vrai que nous voyons en ce moment dans notre Église beaucoup de personnes qui sont dans les épreuves, que tu les entoures, que tu leur donnes des paroles d'encouragement, que tu leur donnes des paroles qui disent que tu ne les oublies pas. Oui Seigneur, tu ne nous oublies pas, nous qui sommes tes enfants. Toi qui connais même les nombres de nos cheveux, tu nous connais parfaitement. Tu connais aussi les mal que nous traversons. Mais malgré tous ces mal, nous voulons vraiment, Seigneur, vivre une relation beaucoup plus profonde avec toi pour que tu puisses agir. Merci encore parce que tu restes fidèle, même si parfois nous restons infidèles. Et tu nous accueilles tels que nous sommes encore ce matin. Seigneur, oui, nous avons besoin d'être façonnés par toi. Nous ne sommes pas parfaits. Et nous voulons vraiment te remettre notre être pour que tu nous façonnes de jour en jour. Durant ces vacances, peut-être pour certains, ils ne sont pas en vacances, mais durant cette période d'été, aide-nous vraiment en tout cas à mieux méditer ta parole, mieux approfondir cette relation avec toi pour que nous puissions découvrir ton plan, pour que nous puissions être dans l'assurance, dans la paix, Seigneur. Et que nous puissions prendre les épreuves comme un sujet de joie parce que tu es avec nous. Ô Seigneur, merci pour tout. Merci pour le sacrifice que tu as fait sur la croix pour nous, Seigneur, pour notre salut. Aide-nous en tout cas aussi à avoir cette espérance. Espérance qui nous vivifie, cette espérance qui nous permet de garder cette patience. C'est au beau nom de Jésus que nous te prions. Amen.